grâce et la paix de Dieu soient sur nous. Jonas, on aime bien Jonas. C'est un peu comme dans toute la parole, Jonas c'est à la fois très simple, et si on creuse, on trouve des trésors. Jonas, le prophète des paradoxes, quelques leçons sur Jonas, c'est le titre du message, mais j'aurais pu dire Jonas, le prophète pas normal, parce que c'est le prophète rebelle, Jonas. C'est le seul prophète qui ne fait pas la volonté de Dieu. Et dans le livre de Jonas, il y a 48 versets, et il y a un demi-verset qui est une prophétie. Donc, c'est un livre prophétique où il n'y a pas de prophétie, en fait. Hein. C'est le prophète des paradoxes. Donc, on va donc regarder Jonas. Alors, Jonas, c'est environ au 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de Jéroboam II. Alors, on en a une trace en 2 Rois 14-25. 2 Rois 14-25. 2 Rois 14-25. Voilà. Il s'agit donc de Jéroboam. Il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusque à la mer de la Araba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Donc, c'est un prophète reconnu. À l'époque de Jéroboam, pour bien qu'on comprenne le contexte, il y avait une très grande richesse matérielle et une immense pauvreté spirituelle. D'ailleurs, les choses vont souvent ensemble, hein. Quand il y a grande richesse, on oublie complètement le côté spirituel. Donc, immoralité, idolâtrie. Ninive, c'était la grande ville de l'époque, la grande ville, capitale d'Assyrie. Et il faut bien comprendre qui étaient les Assyriens. Les Assyriens, c'était un peuple idolâtre et d'une très grande cruauté. Ils pratiquaient, ce que je vais dire est assez cru, mais bon, il faut l'entendre, hein. Ils pratiquaient ce qu'on appelle des cultes de fertilité, c'est-à-dire des orgies sexuelles, mais vous vous rendez bien compte qu'à une époque où il n'y avait aucune méthode de contraception, ils naissaient des enfants qui étaient livrés aux idoles, c'est-à-dire sacrifiés aux idoles. C'était ça, les Assyriens. Et dans le même temps, ils étaient d'une cruauté peu commune envers leurs ennemis. L'archéologie rapporte les cas de villages entiers qui se suicidaient à l'arrivée des Assyriens pour échapper à une mort particulièrement horrible. C'était vraiment des gens qui étaient peu recommandables. Et c'est à ces gens-là que Dieu demande à Jonas d'aller prêcher. Et c'est d'ailleurs étrange puisque c'est un prophète d'Israël, du royaume du Nord, et Dieu lui demande en fait de sortir. Tu restes pas là, tu vas à Ninive. Alors, il faut bien. Alors, la parole ne dit pas où se trouve Jonas. Mais on peut supposer que c'est le royaume du Nord, donc il est à Samarie. Donc, il y a plusieurs centaines de kilomètres pour aller à Ninive. D'accord ? Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Là aussi, premier paradoxe, c'est un prophète qui connaît Dieu et il fait exactement le contraire de ce que Dieu lui demande. Il va même plus loin puisqu'il pourrait très bien rester là où il est. Il ne va pas à Ninive, bon d'accord, mais qui reste là où il est. Non, non, il fait exactement le contraire, puisque par rapport à Samarie, Ninive est au nord-est. Et il dit qu'il descend à Jaffa, donc il descend au sud-ouest. Il tourne le dos à la direction que Dieu veut, et il prend la direction inverse. Il va complètement à l'ouest, Tarsis, c'était le port le plus à l'ouest du monde connu de l'époque. Il va complètement à l'opposé, donc tout dans son corps veut dire « je ne veux pas faire ce que l'Éternel me demande ». Il prend la direction opposée, il descend au lieu de monter. Il va même, donc on va le voir, jusqu'à, il descend au fond du bateau, dans la cale, et il dort. Donc, il est aux antipodes de ce que Dieu veut. Dieu lui demande, et c'est quand même assez simple, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Écrit contre elle. Il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Alors, il devrait savoir que si Dieu envoie, Dieu protège. Si Dieu nous demande de faire quelque chose, si c'est vraiment sa volonté, il nous équipe pour le faire. En tant que prophète, il a une certaine connaissance de Dieu. Et d'ailleurs, on le verra dans le chapitre 2, il sait que Dieu est miséricordieux. Mais il ne veut pas aller à Ninive. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait? Parce qu'il lui demande de faire, Dieu lui demande de faire quand même un voyage qui est long. Entre, il est à Ninive. Alors, j'ai pas trouvé la distance entre Samarie et Ninive, mais entre Jérusalem et Ninive, c'est 800 km. Sachant que Samarie est à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem, ça doit à peu près faire la même chose, peut-être 750 km. Ça veut dire un mois, puisqu'on fait 30 km par jour, sauf le samedi. Donc c'est quand même un long voyage. Et Dieu lui demande quelque chose de très très dangereux. Donc, est-ce que moi je l'aurais fait? Donc, cette histoire, elle n'est pas là pour satisfaire notre curiosité ou notre goût pour les belles histoires, même si c'est une belle histoire. Mais c'est un livre prophétique qui s'attache au comportement du prophète face à la volonté de Dieu quand cette volonté nous étonne. Et l'un des problèmes qu'on a avec Jonas, c'est qu'en tant que chrétien, on le juge. On se dit, ah, Jonas, c'est le prophète rebelle. Il est rebelle. Alors, et nous, on se dit, moi aussi j'ai été rebelle, mais maintenant je ne le suis plus. On le juge, mais en tant que chrétien, on n'est pas rebelle. Le samedi, le dimanche, pardon, on n'a pas envie d'aller au culte. Alors, on peut être fatigué, malade, mais on n'a pas envie. On n'y va pas. Est-ce que là, je fais la volonté de Dieu ? On est dans une conversation et on a l'occasion de dire qu'on est chrétien. Ça m'est arrivé. Hein. Je ne le dis pas et je rentre chez moi en disant « Mais j'aurais pu au moins dire que j'étais chrétien. » Est-ce que là, j'ai fait la volonté de Dieu ? Donc, quelque part, on a tous, en tant que chrétiens, été rebelles un jour ou l'autre quand on ne fait pas la volonté de Dieu. Être rebelle, c'est ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, ce que je me suis dit, c'est que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ce livre, on a tendance à juger parce qu'il est rebelle. Il est rebelle, c'est pas la question. Mais avant de le juger, demandons-nous, mais est-ce que moi, je ne suis pas rebelle? Il faut demander à Dieu, pas simplement le pardon de nos péchés, mais nous devrions lui dire, mais pardonne-moi parce que je suis rebelle, j'ai été rebelle. Combien de fois on aurait pu témoigner, on ne l'a pas fait? Combien de fois on aurait pu faire quelque chose pour le Seigneur et puis on ne l'a pas fait? Je me suis souvenu d'une chose à ma honte, à Intermarché, il y a quelques années. J'avais parlé donc à un monsieur qui avait l'air un peu seul, et donc on avait bien accroché, je lui avais dit que je prierais pour lui. Et je l'ai recroisé quelques jours après, mais avec ma femme. Et j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Et je vous le dis à ma honte. Et il m'a regardé avec un regard triste. Je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais bon, c'était trop tard. Est-ce que là, j'ai pas été rebelle? Ah ben si. Alors, vous verrez pour vous. Alors, remarquez que la parole... Il lui dit lève-toi, et là c'est tout. Il descendit à Jaffa. Ensuite Jonas descendit au fond du bateau, au verset 5b. Jonas descendit au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Donc là il pousse la rébellion vraiment fort. Remarquez aussi que les païens, puisqu'à cette époque là les juifs croyaient en un seul Dieu, tout le reste du monde il n'y avait que des païens, l'athéisme ça n'existait pas. Ils lui disent, verset 6, le chef d'équipage s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Alors que Dieu lui a déjà dit de se lever. Hein. Donc, il est repris par des païens. des idolâtres donnent une leçon aux prophètes de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne les inspire pas pour le reprendre? Par la suite, verset 14b, ils ne veulent pas le jeter. Ils ne veulent pas le jeter. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Éternel, nous t'en prions que nous ne périssions pas à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas d'un sang innocent, car toi, Éternel, tu as agi comme tu l'as voulu. Donc, ils ne veulent pas le jeter. Et pourtant, sauf qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, Jonas est repris par des idolâtres. Alors, ça m'est arrivé d'être repris par quelqu'un qui n'était pas chrétien. J'allais accompagner quelqu'un qui était donc en fin de vie, et puis j'ai dit à cette personne, tu sais, il n'a pas pour longtemps. Il dit, oh, d'où tu sais? C'est lui qui sait. Il se trouve qu'il n'y en avait pas pour longtemps. Mais effectivement, je m'avançais et j'ai été repris. Et je me suis dit, oui, je n'en sais rien. D'accord? Donc, ils reconnaissent la volonté de Dieu, alors que Jonas aussi reconnaît la volonté de Dieu. Les marins, quelque part, font la volonté de Dieu, alors qu'ils la connaissent que très très partiellement. Alors que Jonas, lui, ne fait pas cette volonté de Dieu. Ensuite, le prophète se rend compte que ce qu'il fait, c'est quand même énorme. Mais on pourrait... c'est là où c'est paradoxal, parce que l'Esprit-Saint utilise Jonas. Qu'est-ce qu'il fait, Jonas? Il est prêt à mourir, il donne sa vie pour sauver le bateau. Donc Jonas, en fait, à son corps défendant, il va témoigner en donnant sa vie. Et Jonas est un type de Christ qui va donner sa vie pour nous. Jonas comprend qu'il n'y a pas d'autre moyen que de se jeter, et il donne sa vie pour nous. Et comme notre Seigneur donne sa vie pour nous. Jonas donne sa vie pour que le bateau soit sauvé. Notre Seigneur Jésus-Christ donne sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est un type de Christ. Et pourtant, c'est un rebelle. Alors, on arrive au chapitre 2. Là, c'est le prophète repentant. Donc, c'est une très, très, très belle prière qui contraste. Alors, on est obligé de faire une petite parenthèse par rapport au poisson. Je me suis pas trop posé la question. J'ai cherché le mot hébreu qui veut dire poisson, qui est traduit par poisson. Donc, c'est un poisson. Certains disent, ah oui, c'est peut-être une baleine. Très, très franchement, ça change quoi? C'est un poisson. D'accord? Donc, on va partir de si la Bible dit quelque chose, c'est vrai, point barre. Alors, on va lire du verset 3 au verset 11. C'est la prière de Jonas. Il dit, c'est Jonas qui parle. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à la gorge, l'abîme m'a enserré, des joncs se sont noués autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes, les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. L'Éternel parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. Quand Dieu veut, Dieu agit. Sa parole a été rejetée. Alors il va utiliser la création pour faire réagir Jonas. Et ça marche très bien, puisque ça le fait réagir. Nous aussi, parfois, on n'écoute pas forcément tout de suite. Et quand on n'écoute pas, si Dieu veut vraiment qu'on comprenne, il va susciter une situation qui va nous faire réagir. Alors, Jonas, il connaît Dieu. Il sait que Dieu pardonne. Regardez, il y a verset 3, j'ai invoqué. Il m'a répondu. Un petit peu plus loin, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Donc, il sait que quand on prie, quand on le prie, Dieu répond. Jonas est chassé, jeté, enserré, descendu, mais, tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Verset 7b. Donc, il sait que quand on l'invoque, il répond. Il sait que quand on est dans la difficulté, quand on se tourne vers le Seigneur, il répond. Et il y a le « et » que j'avais souligné. « J'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. J'ai appelé au secours, verset 3, et tu as écouté ma voix. » Et ensuite, verset 7, « Je suis descendu jusqu'aux ancrages des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. » Alors, c'est là que il y a deux façons de voir Jonas. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort? Alors, il y a des commentateurs qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Alors, c'est difficile d'être dogmatique, mais il est quand même question, au verset 3, du sein du séjour des morts, au verset 6, l'abîme m'a enserré, et au verset 7, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Donc, et très franchement, il est dans la mer, donc à cette époque-là, il portait une espèce de djellaba. Nager avec ça, c'est pas facile. Il descend tout au fond. Bon, s'il ne meurt pas, c'est un apnéiste de très très haut niveau. Hein. Donc, mais bon, c'est difficile. Donc, je vous livre ça. C'est à vous de voir. Personnellement, je pense qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité. Mais c'est difficile d'être dogmatique. Certains pensent que non. Bon, donc c'est vous qui voyez. C'était juste une parenthèse. Donc, on va au verset 9, au verset 8. « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. » Ça veut dire que notre Dieu nous pardonne si nous nous tournons vers lui. Il est toujours prêt pour nous pardonner. « Je me suis souvenu de l'Éternel », ça veut dire qu'il avait oublié. Et nous aussi, quelque part, parfois on l'oublie. On pêche et puis il y a toujours cette petite voix qui nous dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et finalement, on revient vers lui et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Là aussi, il y a une question de conséquence. Je me suis souvenu et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. Donc la prière est vraiment entendue et écoutée. Nous aussi, quand on se tourne vers le Seigneur avec un cœur repentant, il écoute toujours, 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 toujours. Petite parenthèse aussi sur le mot qui est traduit là dans ma traduction par bienveillance et au verset 9, ça peut être aussi miséricorde. Alors c'est un mot hébreu qui est très difficile à traduire, c'est chesed, H-E-S-E-D, qui veut dire plein de choses. C'est l'amour qui lie des personnes, Dieu et son peuple. Amour, grâce, fidélité, bonté, un amour qui fait alliance. C'est ça. À chaque fois que vous voyez miséricorde ou bienveillance dans l'Ancien Testament, bien souvent c'est ce mot-là. Et c'est vraiment un amour qui va très loin. C'est Dieu et son peuple qui sont liés ensemble. Pour les idolâtres, pas de bienveillance. Ceux qui s'attachent, verset 9, à de vaines idoles, éloignent d'eux ta bienveillance. Donc c'est tout ou rien. Soit on a le Seigneur, soit on ne l'a pas. Et Jonas termine par une très très belle action de grâce. Pour moi, je t'offrirai les sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. Là aussi, il sait qu'il n'est pas exaucé parce qu'il le mérite, qu'il n'est pas exaucé parce qu'il fait quelque chose, mais qu'il est exaucé parce que c'est le Seigneur qui l'exauce, pas et pas par rapport à ce que lui, Jonas, a fait. Nous aussi, nous croyons que Dieu pardonne, qu'en Christ, Dieu fait alliance avec toi. Donc, est-ce qu'on a conscience de ce qu'on dit quand on dit que Dieu fait alliance avec moi, avec toi, avec toi? Et ça, c'est très très fort. Tout vient de Dieu. C'est lui qui agit. Jonas le sait, se le rappelle. Nous devons, nous aussi, nous rappeler régulièrement ce que Dieu a fait. D'où l'intérêt de lire la parole. Mais ce qu'il a fait dans nos vies aussi. S'il m'a sauvé, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose. Parce que l'alliance entre lui et moi a été scellée par le sang de son Fils. Il a fallu que Christ meure pour moi. D'accord? Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ceux qui ne croient pas ont cette alliance à leur portée. Donc, pourquoi refuser? Dieu en Christ a tout fait pour toi. Là aussi, Jonas comprend parce que Dieu le frappe. Et c'est souvent dans la souffrance qu'on avance. Pensez à Jacob. Jacob, tant que Dieu ne l'a pas brisé, donc il ne comprend rien, d'accord ? Il faut que Dieu brise. Pour que la grâce agisse, il faut un cœur brisé. Et c'est souvent, les jeunes n'aiment pas beaucoup entendre ça, c'est souvent quand Dieu brise, quand Dieu casse, dans les problèmes, qu'on avance réellement spirituellement. Alors, dans certaines traductions aussi, il est dit que Dieu regrette ce qu'il a fait. D'accord ? Attendez, je m'avance un petit peu trop. Oubliez, c'est pour plus tard. Alors, dans le chapitre 3, là, c'est le Dieu des secondes chances. Dieu veut que Ninive entende. Et ils ont 40 jours. Ils ont 40 jours. Remarquez aussi que la prophétie de notre Jonas, c'est quand même extrêmement réduit. C'est vraiment très, très, très réduit. Verset 4b, encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Alors oui, il fait la volonté de Dieu, mais c'est vraiment le service minimum. Il n'y a pas d'appel à la repentance. Jean-Baptiste, il y a un appel à la repentance. Ah là, non. Il dit, d'accord, il faut que j'aille à Ninive, que je leur dise que Ninive va être bouleversée, je le dis, point barre, et puis c'est fini. C'est vraiment le service minimum. Dieu leur donne quand même 40 jours. 40 jours, c'est court, mais ils ont le temps de se repentir. D'accord ? Remarquez aussi le succès que Jonas a. Aucun prédicateur n'a eu un tel succès. Une ville entière. Il prêche une journée. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et Ninive sera bouleversée. Verset 5, les gens de Ninive crurent en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Donc, une journée de marche, une journée de prédication, et prédication minimale, et toute la ville, aucun prophète n'a eu un tel succès, aucun prédicateur, aucun réveil, même à la Pentecôte. Il y a eu 3000 âmes. Mais ce n'était pas Jérusalem tout entier. Donc aucun serviteur de Dieu n'a eu un tel succès. Et c'est quand même un sacré paradoxe. Les Ninivites n'avaient qu'une connaissance partielle, et pourtant ils se sont tournés immédiatement. La vraie repentance, c'est justement une réponse à Dieu. Alors il y a toute une symbolique, puisqu'il est dit que même les animaux sont amenés à jeûner. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi ? Alors, c'est parce que quand on ne donne pas à manger et à boire à un animal, vous allez l'entendre, hein, ça va faire beaucoup de bruit. Et c'est aussi une façon aux gens pour dire, je ne mange pas, mais je ne me repose pas. Il y a les animaux qui font du bruit et qui me rappellent que, oui, mais je me repens, j'ai fait quelque chose de mal, d'accord ? À l'époque de Christ, en revanche, leur connaissance était bien plus grande que maintenant. Et pourtant, ils ne se sont pas tournés vers lui. D'accord ? Donc, les païens, que sont les Assyriens, les Ninivites, se tournent, se repentent, alors qu'à l'époque de Christ à Jérusalem, ils connaissaient la parole. Et pourtant, ils ne se sont pas tournés vers lui. Alors, on a aussi, on va parler du Seigneur à ses amis, ils comprennent bien, mais il y a toujours, ah oui, mais tu comprends, j'ai un problème intellectuel. Ah mais tu comprends, oui mais il y a quand même le libre arbitre. Oui, ben oui, c'est pas un problème intellectuel, c'est le péché. C'est le péché. J'ai l'exemple d'une, bon, je resterai vague donc exprès, c'était une quinzaine d'années, 10-15 ans, qu'on avait invité à l'église, elle était contente, et puis donc elle n'est pas venue, on a appris qu'elle entretenait une relation avec un homme marié. Effectivement, si elle était venue, elle aurait entendu à un moment ou à un autre que non, on ne sort pas avec un homme marié. D'accord ? Ah oui, mais tu comprends. La vraie repentance, c'est une réponse à Dieu. Regardez Jérémie 31, 18, 19. C'est un passage qu'on connaît bien. Jérémie 31, 18, 19. Fais-moi revenir et je reviendrai. Car c'est toi l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, je me repens. Et après m'être connu moi-même, je me frappe sur la cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le déshonneur de ma jeunesse. Quand on se tourne vers le Seigneur, il va répondre. D'accord ? Il y a toujours moyen. Personne, absolument personne, n'est exclu du pardon. Ça vous est peut-être arrivé dans le témoignage, quelqu'un qui vous dise « Ah, mais vous ne savez pas ce que j'ai fait. » Sous-entendu, ce que j'ai fait, c'est tellement énorme, Dieu ne peut pas me pardonner. Alors, il me semble qu'il y a une mauvaise réponse, une bonne réponse. Si vous dites à la personne « Non, je ne sais pas ce que vous avez fait, et ça ne me regarde pas. » C'est vrai, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de dire « Non, je ne sais pas ce que tu as fait, mais toi non plus, tu ne sais pas ce que j'ai fait. » Qu'est-ce que moi j'ai fait ? T'en sais rien non plus. Donc aucun péché, je dis bien aucun péché, et effectivement ça peut paraître choquant, mais aucun péché n'est trop grand pour le Seigneur. Aucun péché. À partir du moment où on se tourne vers lui avec un cœur brisé, alors, c'est pas pour ça que on ne va pas encourir la punition des hommes, hein, d'accord ? On est bien d'accord. Il y aura toujours la conséquence du péché, mais on sera pardonné à partir du moment où on veut être pardonné. Des gens qui vous disent, pour ces gens-là, pense aux assassins d'enfants, il n'y a pas de pardon de Dieu. Si l'assassin en question se tourne vraiment vers le Seigneur, avec un cœur vraiment repentant, il est pardonné. Je sais que ce que je dis est choquant, mais c'est ce qu'on dit, le seul péché qu'on ne puisse pas pardonner, c'est quand on ne se tourne pas vers lui. Et c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. À partir du moment où on se tourne vers notre Seigneur, il va pardonner. Au verset 9, j'ai perdu ma page. Au verset 9, qui sait si Dieu, ce sont les Ninivites qui parlent, qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regrets, s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alors, sur le mot regret, ce que ça veut dire, c'est que c'est la miséricorde de Dieu qui ne leur donne pas ce qu'ils méritent. Ils méritent cela, mais parce qu'ils se repentent, le Seigneur ne fait pas ce qu'il devrait faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un regret comme nous on le voit. Certaines paroles ont se repenti. Ce n'est pas une repentance comme nous. C'est-à-dire que Dieu devrait faire quelque chose, mais parce qu'il se tourne vers lui, il ne le fait pas. Il le mériterait. Mais dans sa miséricorde, je vous rappelle que la miséricorde, c'est Dieu qui ne fait pas ce qu'on mérite, et la grâce, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Dans sa miséricorde, Dieu ne punit pas parce qu'ils se sont repentis. C'est ça que ça veut dire. Alors, dans une dernière partie, le prophète a encore des choses à apprendre, parce qu'il fait la volonté de Dieu, comme on l'a vu, mais c'est vraiment le service minimum. Et au verset premier du chapitre 4, cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Pourquoi ? Parce que Jonas sait que les Ninivites y vont être pardonnés. Il sait que notre Dieu est miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Il le sait. Donc, il ne voulait pas y aller pour qu'il ne soit pas pardonné. C'est ça le problème. Et là aussi, la vieille nature prend le dessus. Cette vieille nature qui fait que les Ninivites, pour lui, c'est les ennemis d'Israël. Ils ne doivent pas être pardonnés. Certains chrétiens disent aussi, ne va pas vers lui, c'est quelqu'un de toxique. Il n'y a personne de toxique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille se jeter dans la gueule du loup. C'est-à-dire il y a des pasteurs qui ont témoigné auprès de prostituées qui se sont retrouvés dans ce milieu-là. Il y a des gens qui peuvent témoigner, mais ils sont équipés pour. D'accord ? On ne peut pas, dans certaines conditions, témoigner auprès de tous. Donc, des gens qui vont dans des bars et qui se retrouvent à boire et parce qu'ils n'étaient pas équipés pour. Mais il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Et d'ailleurs, il le dit par la suite. Il pria l'Éternel, verset 2 du chapitre 4. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance et qui regrette le mal. Donc, il ne veut pas que les Ninivites soient pardonnés. Mais nous devons œuvrer pour le salut de tous. Personne n'est indigne de ce salut. Et on a, dans l'histoire du christianisme, des gens qui se sont convertis dans grâce infinie. John Newton, c'était un trafiquant d'esclaves de la pire espèce. Dans une tempête, il prie auprès de Dieu, il se convertit. Alors il veut affranchir ses esclaves, mais la loi ne lui permet pas. Donc il leur apprend un métier et il va collaborer avec un Anglais qui s'appelait William Wilberforce pour faire des lois pour abolir l'esclavage. Vous imaginez le changement ? Vous imaginez le changement ? Un trafiquant d'esclaves, détesté de tous, se retrouve. Et c'est donc tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Alors, le Seigneur va utiliser va lui donner une leçon. En faisant avec un ricin, donc une plante, il fait pousser une plante pour le protéger parce qu'il y a du soleil, et puis ensuite il envoie un ver sur la plante et puis il n'y a plus de plante. Et Jonas s'énerve, mais en fait c'est une très belle image parce que trop souvent on ne voit pas les choses clairement. Jonas se soucie d'une plante, alors que c'est juste une plante, et pas d'un peuple entier. Donc la compassion pour toutes les âmes perdues doit faire partie du ministère chrétien. Toutes les âmes perdues. Alors, c'est parfois difficile, vous ne pourrez pas, à vous tout seul, évangéliser la terre entière, mais il y a toujours moyen. Si le Seigneur met quelqu'un sur ta route, parle-lui. Et croyez-moi, si c'est la volonté du Seigneur, les mots vont vous venir. Les mots vont vous venir. D'accord ? Il ne faut jamais se dire, je ne sais pas quoi dire. Si réellement vous avez l'intention de témoigner auprès de la personne, les mots vont venir. La compassion pour les âmes perdues doit faire intrinsèquement partie de notre ministère. D'accord ? On doit avoir à cœur les âmes perdues. Et attention au jugement, parce que on a été rebelles aussi, comme on a dit au début. Donc il nous faut accepter cette volonté de Dieu, que Jonas finit enfin par accepter. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le montre. Regardez Luc 22, 42. C'est un passage qu'on connaît très bien. Luc 22, 42. On va lire à partir... On va lire à partir du verset 40 et jusqu'au verset 44. Donc il est âgé de ses manées, hein. Donc il attend d'être livré. Judas n'est pas encore arrivé, il n'a pas encore été arrêté, mais c'est une question de temps. Arrivé à cet endroit, il leur dit, c'est Jésus-Christ qui parle, priez afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça veut dire que faire la volonté de son père, ça n'a pas été facile, ça a été extrêmement difficile, mais il le fait quand même. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc, faire la volonté de Dieu, son Père. Ça a été extrêmement difficile, mais il le fait quand même. Alors, on ne sera jamais confronté à une telle situation, mais il nous montre l'exemple. Il fait la volonté de son Père. Est-ce que nous, on fait la volonté de Dieu, sachant que pour nous, faire la volonté de Dieu, c'est dans les petites choses. Notre attitude vis-à-vis de la volonté de Dieu est primordiale. Est-ce qu'on l'a fait par contrainte, du bout des lèvres? Un petit peu comme Jonas. Sa prédication, c'est vraiment, c'est le minimum syndical, hein, d'accord? S'il finissait donc à 17h, à 17h01, il a déjà son manteau, il est parti, hein, d'accord? C'est vraiment le minimum. Ou bien, est-ce qu'on va le faire avec joie? Et là, il y a deux exemples de joie. Actes 5, 41 et 16, 25. Regardez, Actes 5, 41. Acte 5. Ce sont les apôtres. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Donc, ils se réjouissent parce qu'on leur a tapé dessus, en fait. Hein. Et dans le même livre, 16, verset 25, donc c'est Paul et Silas qui sont emprisonnés. On peut imaginer dans quelles conditions on était emprisonné à l'époque. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Vous imaginez le truc? Ils font la volonté de Dieu. Ils sont jetés en prison. Ah, peu importe! Peu importe! Ils sont en train de chanter. Donc ils sont enchaînés et ils chantent et ils louent le Seigneur. Ça, c'est faire la volonté du Seigneur avec joie. Alors, quelqu'un va dire, ah oui, mais tu comprends, c'est les apôtres. Oui, mais les apôtres, ils avaient le même esprit que nous, hein. Il n'y a pas un Esprit Saint qui est plus fort pour certains que pour d'autres. C'est le même Esprit Saint. Simplement, il y en a qui étouffent l'Esprit et d'autres qui l'étouffent moins. Là, on a vraiment l'exemple de gens qui font la volonté du Seigneur et qui sont joyeux. Et croyez-moi, être en prison à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose. Donc, en conclusion, évitons de juger ceux qui sont rebelles, parce que nous l'avons été, parce que nous le sommes encore. Et quand on fait la volonté du Seigneur, prenons-y plaisir. Et si on n'y prend pas plaisir, qu'on se tourne vers lui, qu'on le prie, et qu'on n'oublie jamais que notre Seigneur, quand il nous demande de faire sa volonté, il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Nous, on oublie, lui, il n'oubliera pas. Souvenez-vous, hein, même si vous donnez à un prophète un simple verre d'eau, vous aurez une récompense. C'est rien du tout, un verre d'eau. C'est rien du tout. Donc, il ne faut jamais se dire, ah mais ça c'est pas grand chose. Non, non. Faire la volonté du Seigneur, c'est pour toi que ça paraît, pas grand chose. Mais qu'est-ce qui dit que ça ne va pas créer quelque chose, une réaction? Donc quand on sait que c'est la volonté du Seigneur, il faut le faire. Il faut le faire avec joie. Si on le fait avec joie, notre Seigneur s'en souviendra. Et souvenons-nous de Jonas, qui lui a compris. Ça a mis le temps. Il a fini par comprendre. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen.